Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je savais juste qu'il était absent parce que il était malade. J'étais choquée parce que c'est quelqu'un qu'on connaît avec ma famille depuis longtemps.
Comment a-t-il attrapé le virus ? Beaucoup de questions ce soir après la mort d'un professeur de 60 ans dans l'Oise. Il n'avait pas voyagé dans les zones à risque.
Nous sommes sur place ce soir. Cellule de crise activée, plan blanc déclenché à l'hôpital de Creil.
L'épidémie de Covid-19 est-elle en train de changer de dimension ? Est-elle maintenant inéluctable en France ? À quel point faut-il s'en inquiéter ? Et est-ce vraiment plus grave que la grippe ? On va prendre le temps ce soir de répondre à ces questions.
Et nous serons aussi à Lyon où près de 3000 supporters italiens pourront bien assister au match de Ligue des Champions.
Je ne crains pas le coronavirus. Vous les Français, vous ne devez pas vous inquiéter. On est tous en bonne santé, il n'y a aucun doute.
Le match aura bien lieu Lyon, Juventus-Turin et c'est à suivre sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h.
L'actualité de ce mercredi soir, c'est aussi les premières piques au procès de François Fillon.
Les banques épinglées pour leurs tarifs trop peu lisibles.
Et la reine, Maria Sharapova, la reine du tennis, bien sûr, qui annonce sa retraite.
Elle était entièrement tournée vers la victoire, la compétition, tout ce qui représentait la combativité.
Maria Sharapova, 28 ans de tennis, 5 titres du Grand Chelem. La Bourse de Paris à l'équilibre ce soir, 5684 points.
Bonsoir Anissa, la couleur du ciel demain.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, c'est encore très gris demain. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent et de la neige. Sans oublier les températures toujours aussi fraîches. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Il est arrivé hier soir à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans un état gravissime, disent les autorités. Cet homme, un enseignant de 60 ans, est mort peu après. Il était porteur du Covid-19, mais n'a été détecté que très tard. Jusque-là, il était hospitalisé pour une grippe. Bonsoir Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place dans l'Oise, où il habitait. Des questions donc et une inquiétude parce qu'il était professeur dans un collège.
Oui, professeur de technologie au collège La Fontaine de Crépy-en-Valois. Le 12 février, le sexagénaire est placé en arrêt de travail, puis face à l'aggravation de ses symptômes, il est ensuite hospitalisé à Creil avant d'être transféré hier à la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est là qu'il est décédé la nuit dernière. Choquant pour Candice, collégienne, il était son professeur l'an dernier.
On savait juste qu'il était absent parce que il était malade. J'étais choquée parce que c'est quelqu'un qu'on connaît avec ma sœur, enfin avec ma famille depuis longtemps.
En raison du délai d'incubation de 14 jours maximum, seuls les personnes ayant été en contact avec le patient, avec des symptômes visibles ayant débuté entre le 12 février et le 25 février, sont invitées à se faire connaître. Et pour l'instant, on ne sait pas si le collège où travaillait le patient décédé rouvrira ses portes lundi. Mais déjà, les collégiens que j'ai pu rencontrer sont inquiets.
Un peu, parce que comme il y avait des profs qui étaient proches de lui, parce qu'ils se connaissaient forcément.
On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Si on va avoir des masques, ils vont voir notre fièvre, on ne sait pas du tout.
Et puis il y a une autre question, comment le virus a-t-il fait pour venir de Wuhan en Chine jusqu'à cette petite commune de même pas 1000 habitants ? Cécilia aimerait comprendre car visiblement le professeur ne s'était pas rendu dans une zone à risque. C'est d'ailleurs pour cela qu'aucun test de coronavirus n'avait été effectué.
Ça se propage trop vite, c'est parce que ce monsieur apparemment n'a pas voyagé, d'où il a attrapé ça ou avec quelle personne il a été en contact.
Remonter le fil de la contagion, ce sera tout le travail des autorités ces prochaines heures et ces prochains jours.
Jean-Jacques Herry, envoyé spécial à Vaumoise, dans l'Oise, où une cellule de crise est activée. L'hôpital de Creil a aussi enclenché le plan blanc et un numéro d'information est mis en place pour les habitants des Hauts-de-France, le 03 20 30 58 00.
C'est donc le deuxième décès hein, dans l'Hexagone, première victime française. Deux autres nouveaux cas de contamination ont également été annoncés. L'un sans gravité, un Français qui revient d'Italie. Il est hospitalisé à Strasbourg. L'autre, bien plus préoccupant.
Oui, un homme de 55 ans qui est en réanimation à Amiens, donc lui aussi dans les Hauts-de-France. Et comme le professeur décédé, on ne sait pas comment il a attrapé le virus.
Oui, bonsoir Ève Roger.
Bonsoir.
Cela fait deux cas plus inquiétants, bien plus inquiétants que les autres.
Hein. Oui, parce que ces deux hommes ne reviennent pas d'une zone à risque, vous l'avez dit, ils n'ont pas voyagé en Italie ou en Chine. Et on n'a toujours pas réussi à remonter la chaîne de contamination jusqu'au fameux patient zéro, celui qui leur a transmis le virus. Et ça, c'est la première fois que ça arrive en France sur les 17 cas recensés jusque-là. Ça veut dire que pour l'instant, le virus circule, mais on ne sait pas où ni comment. Et au moment où je vous parle, les autorités essaient de boucler évidemment l'enquête le plus rapidement possible.
Alors Eve, je voudrais qu'on prenne le temps ce soir de se poser un peu pour répondre à quelques questions. Au-delà du climat qui peut paraître à tout le monde assez anxiogène en ce moment, on voit qu'il y a des mesures parfois drastiques. Confinement aujourd'hui d'un hôtel en Bourgogne, le temps de lever des doutes. Pourquoi on prend tant de précautions ? Qu'est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui ? Et est-ce que c'est plus grave par exemple, que la grippe qui fait 10 000 morts quand même par an en France.
Alors déjà, si on prend tant de précautions, c'est parce qu'on connaît très mal ce virus, contrairement à celui de la grippe. Et on ne sait pas en particulier comment il se comporte. Est-ce qu'il peut muter, peut-être de façon plus agressive? Il faut donc rester prudent. Et puis, contrairement à la grippe, il n'existe pas de vaccin. Donc personne n'est protégé a priori. Alors c'est vrai que ce coronavirus est plus contagieux que celui de la grippe, plus mortel aussi, mais rien ne sert de paniquer. Dans plus de 80% des cas, la maladie prend des formes bénignes. Et puis, il est surtout moins dangereux que les deux coronavirus déjà connus, le SRAS ou le MERS, qui sévit encore aujourd'hui en Arabie Saoudite.
Et Eve, que sait-on des patients qui sont morts du virus ?
Eh bien, ce sont essentiellement, je dis bien essentiellement, des personnes âgées. Les plus de 80 ans sont les plus à risque. Pour prendre un exemple, en Chine, 8 morts sur 10 avaient plus de 60 ans.
Eve Roger, merci beaucoup, chef du service Société d'Europe 1. On va revenir sur cette victime française, décédée donc tout à l'heure, on l'a appris évidemment en début de journée. On va y revenir avec mon invité à 18h20, l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur. Sébastien, on poursuit bien sûr toujours sur ce sujet.
On apprend par ailleurs que la trentaine de Français qui avaient été rapatriés de Chine et placés en quarantaine en Normandie vendredi dernier, ils vont bien, la quasi-totalité ont été testés négatifs.
Et cet après-midi, 9 ministres concernés par cette crise se sont réunis à Matignon. Édouard Philippe recevra ensuite demain matin les chefs de partis politiques et les présidents des groupes parlementaires pour un point sur la situation.
Le gouvernement qui a décidé, on vous le disait, dès hier soir, de maintenir ce match de football ce soir, Lyon-Juventus de Turin, et la venue aussi des supporters italiens. Ils sont près de 3000 attendus, match maintenu contre l'avis de certains élus locaux. Cyril Delamorinerie, vous êtes aux abords du stade. Quelle est l'atmosphère ce soir? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude?
Écoutez, les supporters arrivent tranquillement jusqu'au stade. Ils ne portent pas de masque, mais plutôt des écharpes et des maillots à l'effigie de leur club. Maurizio, fan de la Juventus, n'a pas hésité. Il a pris l'avion depuis Catane en Sicile pour encourager son équipe.
Je ne crains pas le coronavirus. Vous, les Français, vous ne devez pas vous inquiéter. On est tous en bonne santé, il n'y a aucun doute.
En revanche, en centre-ville, certains commerçants se disent préoccupés par la situation. Au Café de la République, qui fera le plein ce soir, plusieurs serveuses m'ont confié leur crainte d'être au contact de supporters venus d'Italie du Nord. Yacine, qui travaille dans un pub voisin, Place Bellecour, n'est pas rassuré non plus.
Ça nous stresse, quoi. Il y a énormément de supporters et puis c'est ingérable. C'est ingérable. Dans des cas pareils, il fallait faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai failli ne pas venir.
En tout cas ici, au stade, plusieurs affiches en français et italien ont été placardées, rappelant les mesures de prévention. Si vous venez d'une zone à risque et que vous avez de la fièvre, de la toux, appelez le 15, est-il écrit. Cela dit, les contacts entre supporters lyonnais et italiens seront limités. Les tifosi seront regroupés dans une partie de la tribune. Tous espèrent que cette crise sanitaire n'aura aucun impact sur l'ambiance et la qualité du match.
Cyril Delamorinerie en direct de Lyon pour Europe 1. Merci à vous. On revient sur l'aspect sportif à 19h. Et vous suivez bien sûr le match en direct sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h en public dans le studio Belmar autour de Lionel Rousseau.
Et puis autre match, autre décision. Cette fois en rugby, la rencontre du tournoi des Six Nations entre l'Irlande et l'Italie qui était prévue dimanche à Dublin a, elle, été reportée en raison des risques de propagation de l'épidémie. Décision des autorités irlandaises.
Et puis on a appris aussi ce soir que la dernière journée de carnaval de Nice était annulée. Annulé samedi, de même que le feu d'artifice le lendemain dimanche. Écoutez, le maire de Nice, Christian Estrosi.
Ne tergiversons jamais lorsqu'il y a un choix à faire entre l'économie et la santé, que la santé est prioritaire, que nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante à l'échelon de la planète. Là où les autorités italiennes nous annoncent une progression du virus alors qu'il incomberait à l'État français de prendre des décisions d'annulation. Il ne l'a pas pris, peut-être estime-t-il que ça n'est pas nécessaire. Mais personnellement, alors qu'il ne reste plus qu'une journée, à titre préventif et à titre de précaution, j'ai décidé que la dernière sortie de carnaval n'aurait pas lieu samedi prochain.
Voilà, Christian Estrosi avec Frédéric Michel. Et cela malgré les conséquences économiques. Il y aura un impact pour les commerçants. Forcément, le carnaval qui génère plus de 30 millions d'euros de retombées chaque année. À Menton, pas très loin de Nice, la fête du citron est elle aussi annulée au moment où l'Italie annonce un 12e décès. C'est le pays le plus touché en Europe. La Grèce a annoncé son premier cas. Le Brésil est touché à son tour. Premier patient contaminé en Amérique latine. En tout, une quarantaine de pays sont touchés à travers le monde et l'épidémie se répand désormais plus vite en dehors de la Chine qu'à l'intérieur.
Et le Pakistan qui annonce aussi il y a quelques minutes ses deux premiers cas du coronavirus. On se retrouve dans un instant. On sera avec le directeur de l'unité d'épidémiologie de l'Institut Pasteur, Arnon Fontanet, dès 18h20 pour aller encore plus loin sur cette question du coronavirus.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Cette fois, le procès Fillon a bien démarré. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis 28 ans sur les cours de tennis, 5 titres du Grand Chelem, Maria Sharapova prend sa retraite.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre journal sur Europe 1, 18h11, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Savez-vous combien vous payez de frais bancaires ? Les établissements sont à nouveau épinglés pour leur manque de transparence.
Alors certes, ces frais sont plutôt stables cette année, nous dit une étude comparative qui a été menée sur une centaine de banques. Stable au global, mais les frais de tenue de compte, eux, augmentent de 3%. Mais surtout, l'association de consommateurs UFC Que Choisir pointe le manque de lisibilité. Écoutez Mathieu Robin.
La brochure de BNP Paribas, c'est 440 tarifs. Celle de la Société Générale, c'est 51 pages. Donc c'est beaucoup d'informations et beaucoup de difficultés également pour les consommateurs à bien les comprendre, ces tarifs. C'est assez flagrant dans la mesure où eh bien, c'est le troisième poste de litige à la Fédération bancaire française, donc le lobby des banques. Et nous, constatant effectivement que les consommateurs ont beaucoup de mal à comprendre ces tarifs et beaucoup de mal à les comparer, ces tarifs, et donc à faire jouer la concurrence, eh bien en 2010, on avait obtenu des banques qu'elles s'engagent à les rendre plus lisibles, ces brochures tarifaires. Et comment les rendre plus lisibles ? Eh bien c'était en créant, en première page de leur brochure, ce qu'on appelle un extrait standard des tarifs bancaires, qui résumait en fait les tarifs des 12 principaux frais bancaires. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que sous prétexte eh bien, des nouvelles règles européennes, ils ont décidé de dénoncer unilatéralement eh bien, cette avancée pour les consommateurs.
On a Mathieu Robin qui a mené une étude pour l'UFC Que Choisir, propos recueillis par Olivier Samin. Par ailleurs, la filiale de crédit de la banque BNP Paribas, qu'on connaît sous le nom de CTLM, a été condamnée aujourd'hui à une lourde amende dans l'affaire des prêts toxiques Helvet Immo, coupable de pratiques commerciales trompeuses pour ne pas avoir alerté leurs clients sur les risques de ces prêts libellés en francs suisses.
Et après le faux départ de lundi, le procès de François et Pénélope Fillon, que l'on va suivre bien entendu, a démarré aujourd'hui, mais brièvement.
Oui, l'ancien Premier ministre poursuivi pour les emplois fictifs de son épouse. Il risque 10 ans de prison. Salomé Legrand, vous avez assisté à cette première journée d'audience très procédurale, hein, mais déjà avec des premières piques.
Et oui, les premières amabilités lancées dans le prétoire avec d'un côté les avocats du couple Fillon qui accusent le parquet financier d'avoir précipité l'ouverture de l'instruction afin qu'une loi plus sévère s'applique. À quelques jours près, c'est vrai, on ne pouvait plus remonter que sur 12 ans grâce à la réforme de la prescription. Maître Cornu-Gentil, pour la défense de Pénélope Fillon, insiste. Le juge a été désigné en un temps record, un samedi en plein week-end, du jamais vu, tonne-t-il. Coup de griffe aussi du côté du parquet. On a été naïf de croire que la victimisation de la défense allait cesser pour faire place au droit, tacle le premier procureur financier, laissant son collègue insister sur la gravité du délit de détournement de fonds publics, puni, rappelle-t-il, de la peine correctionnelle la plus lourde, 10 ans de prison. Le magistrat se permet même un saut au Moyen-Âge pour rappeler que c'était alors un crime, puni de la peine de mort par pendaison. Un petit frisson d'excitation traverse le public, même volontairement excessive, la comparaison fait se dresser les trois prévenus d'un bond sur leur strapontin.
Le récit de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. L'année record pour PSA, bénéfice 2019, 3,2 milliards d'euros en hausse de 13%, et cela malgré un mauvais contexte pour le marché automobile mondial. Le groupe annonce une prime d'intéressement de 4100 euros pour tous les salariés qui gagnent moins de 2 fois le SMIC.
Tennis, je te dis adieu. Voilà comment la reine de la petite balle jaune et du glamour, Maria Sharapova, annonce sa retraite.
L'ancienne numéro 1 mondiale arrête là à 32 ans et après 5 tournois du Grand Chelem remportés, carrière qui aura malgré tout été entachée par un scandale de dopage. On s'en souvient, une suspension de 15 mois, mais la Française Nathalie Dechy retient plutôt ses exploits.
En étant très précoce, à 17 ans, battant Serena Williams, donc en démarrant déjà par une grosse finale, et elle était entièrement tournée vers la victoire, la compétition, tout ce qui représentait la combativité et les titres en Grand Chelem. Mais à côté de ça, elle a développé un empire. Elle a joué forcément sur plusieurs autres valeurs que sont le glamour, le côté modèle. Elle a représenté énormément de marques. Ça a été une des athlètes la mieux payée au monde. Donc, elle avait développé ces deux piliers-là au maximum pendant pas mal d'années.
Nathalie Dechy avec Corinne Boulou, elle prend sa retraite en tennis, hein, mais en glamour et en mode, ça risque de continuer probablement. Ouais.